frère Michel, bonjour. C'est heureux de vous avoir à nouveau avec nous pour découvrir
Bonjour.
encore plus de ce grand pape, de Jean-Paul II.
Voilà, Saint Jean-Paul II. Alors donc aujourd'hui, avec le laboratoire de la foi, une expression qu'il a utilisée pour les Journées mondiales de la jeunesse à Rome en l'an 2000, donc l'année du jubilé. Ce que nous allons dire va nous montrer le bonheur que nous avons de croire, la grâce qui nous est faite de connaître Jésus dès notre jeunesse. Nous nous appuierons pour cela sur ce discours de Jean-Paul II lors de la fameuse veillée de prière à Tor Vergata, vers le 19 août 2000, sur le thème « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Citation de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 15. Si nous regardons les grands rassemblements de jeunes au XXe siècle, quels sont-ils? Les grands rassemblements des jeunesses communistes, les rassemblements nazis ou fascistes, les rassemblements de la culture rock'n'roll de Woodstock, par exemple, à comparer avec les JMJ. Au nom de quoi se sont faits ces rassemblements? Quelle différence! Jésus fait la différence et il se fait connaître de nous par la foi, à travers un dialogue intérieur, dans ce que saint Jean-Paul II a appelé le laboratoire de la foi. Donc nous allons présenter d'abord la non-foi, l'athéisme, et l'éclairage qu'avait porté saint Jean-Paul II pendant le Concile Vatican II. Et ensuite, nous partirons de cet enseignement qu'a donné Jean-Paul II pendant les JMJ de l'an 2000 sur le laboratoire de la foi. D'abord, la rencontre de Jésus et l'entretien près de Césarée avec saint Pierre, puis la manifestation à saint Thomas après la résurrection. Nous trouverons des éléments pour expliquer ce qu'est ce laboratoire de la foi que nous avons en chacun de nous. Les apôtres de ces entretiens avec Jésus sont sortis comme des hommes pleinement conscients de la vérité que Dieu avait révélée en Jésus-Christ. Le Christ ne s'est pas fait connaître comme Dieu d'emblée, cela est même resté caché aux démons jusqu'à la descente aux enfers et à la libération des âmes des limbes. Il fallait que les apôtres eux-mêmes apprennent à croire. Donc, première partie, voyons ce qu'est la non-foi, l'athéisme. Saint Jean-Paul II est intervenu d'une manière remarquable pendant le Concile Vatican II, et en particulier, on explique de plus en plus que c'est lui qui a été la cheville ouvrière au sein de l'épiscopat polonais pour que la préparation du texte qui allait devenir Gaudium et Spes, joie et espérance, ne soit pas évacuée. Et donc, il l'a repris et il a entraîné pour qu'avec d'autres puisse être retravaillé ce texte qui parle de l'Église dans le monde de ce temps. Et lui, qui était expert de la situation de l'Église brimée, martyrisée, hein, d'abord par les nazis, ensuite par le communisme athée qui venait de la Russie, hein, l'armée rouge a occupé la Pologne, eh bien, il a parlé de l'athéisme. Donc, il m'est difficile de dire ce qui venait de lui ou des autres évêques et experts en théologie qui ont contribué à la rédaction de ce texte Gaudium et Spes, mais on peut dire qu'il a été présent pour cette rédaction. Dans ce texte au numéro 79, il est parlé des formes et des racines de l'athéisme. D'abord, il est souligné que l'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Mais certains n'en veulent pas. Et donc vient ensuite une définition de l'athéisme comme de phénomènes très divers. En effet, tandis que certains athées nient Dieu expressément, d'autres pensent que l'homme ne peut absolument rien affirmer de lui. D'autres encore traitent le problème de Dieu de telle façon que ce problème semble dénué de sens. Beaucoup, outrepassant les limites des sciences, ou bien prétendent que la seule raison scientifique explique tout, ou bien, à l'inverse, ne reconnaissent comme définitive absolument aucune vérité. Certains font un tel cas de l'homme que la foi en Dieu s'en trouve comme énervée, plus préoccupée qu'ils sont, semble-t-il, d'affirmer l'homme que de nier Dieu. D'autres se représentent Dieu sous un jour tel que, en le repoussant, il refuse un Dieu qui n'est en aucune façon celui de l'Évangile. D'autres n'abordent même pas le problème de Dieu. Ils paraissent étrangers à toute inquiétude religieuse et ne voient pas pourquoi ils se soucieraient encore de religion. L'athéisme n'est souvent soit d'une protestation révoltée contre le mal dans le monde, soit du fait que l'on attribue à tort à certains idéaux humains un tel caractère absolu qu'on en vient à les prendre pour Dieu. Il y a donc ainsi des approches différentes. Ceux qui délibérément s'efforcent d'éliminer Dieu de leur cœur et d'écarter les problèmes religieux en ne suivant pas le dictamen de leur conscience, ne sont pas exempts de faute, certes, mais les croyants eux-mêmes portent souvent à cet égard une certaine responsabilité, car l'athéisme, considéré dans son ensemble, ne trouve pas son origine en lui-même. Il la trouve en diverses causes, parmi lesquelles il faut compter une réaction critique en face des religions, et spécialement en face de la religion chrétienne. C'est pourquoi, dans cette genèse de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de leur foi, par des présentations trompeuses de la doctrine, et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils ne le révèlent. Vient ensuite tout un développement sur l'athéisme systématique, donc qui était érigé en régime en Pologne, le pays de Jean-Paul II, et puis aussi dans la Russie et tout ce que l'on appelait à l'époque l'URSS, au-delà du rideau de fer, les pays qui étaient sous sa domination, ainsi qu'en Chine et dans d'autres pays. L'attitude de l'Église en face de l'athéisme, au numéro 21. L'Église, fidèle à la foi à Dieu et à l'homme, ne peut cesser de réprouver avec douleur et avec la plus grande fermeté, comme elle l'a fait dans le passé, ses doctrines et ses manières de faire funestes, qui contredisent la raison et l'expérience commune et font déchoir l'homme de sa noblesse native. Elle s'efforce cependant de saisir dans l'esprit des athées les causes cachées de la négation de Dieu, et bien consciente de la gravité des problèmes que l'athéisme soulève, soulevée par son amour pour tous les hommes, elle estime qu'il lui faut soumettre ses motifs à un examen sérieux et approfondi. L'Église tient que la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. Car l'homme a été établi en société, intelligent et libre, par Dieu son Créateur. Mais surtout, comme fils, il est appelé à l'intimité même de Dieu et au partage de son propre bonheur. L'Église enseigne, en outre, que l'espérance de la fin des temps ne diminue pas l'importance des tâches terrestres, mais en soutient bien plutôt l'accomplissement par de nouveaux motifs. À l'opposé, lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, la dignité de l'homme subit une très grave blessure, comme on le voit souvent aujourd'hui, et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution. Ainsi, trop souvent, les hommes plongent dans le désespoir. Pendant ce temps, tout homme demeure à ses propres yeux une question insoluble qu'il perçoit confusément. Quant au remède à l'athéisme, on doit l'attendre d'une part d'une présentation adéquate de la doctrine chrétienne, d'autre part, de la pureté de vie de l'Église et de ses membres. Il y a donc tout un travail à faire et il s'agit d'annoncer l'Évangile d'une manière attrayante et convaincante. Ainsi, l'Église, tout en rejetant absolument l'athéisme, proclame sans arrière-pensée que tous les hommes, croyants et incroyants, doivent s'appliquer à la juste construction de ce monde dans lequel ils vivent ensemble. Et cela est possible avec un dialogue loyal et prudent. L'Église sait parfaitement que son message est en accord avec le fond secret du cœur humain, quand elle défend la dignité de la vocation de l'homme et rend ainsi l'espoir à ceux qui n'osent plus croire à la grandeur de leur destin. Ce message, loin de diminuer l'homme, sert à son progrès en répandant lumière, vie et liberté. Et en dehors de lui, rien ne peut combler le cœur humain. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, disait le grand saint Augustin, et notre cœur ne connaît aucun répit jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Et vient cette magnifique phrase du Concile Vatican II, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, Jésus. C'est donc en étant bien conscient de ce défi qu'a lancé l'athéisme au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, avec les idéologies mortifères qu'étaient le communisme athée marxiste et le nazisme, et aussi tout ce courant libertaire, on pourrait dire, si présent en Occident, mais qui poussait tant de jeunes au désespoir, que Jean-Paul II s'adresse aux jeunes le 19 août 2000 à Tor Vergata à Rome. Donc d'abord, voyons comment Jésus a parlé à ses apôtres et les a fait grandir dans la foi. Premièrement, l'entretien avec Saint-Pierre à Césarée de Philippe. Je lis d'abord ce que nous dit l'Évangile, donc chapitre 16, versets 13 et suivants. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Donc, autrement dit, lui-même, Jésus. Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus, auparavant, avait déjà accompli un grand nombre de miracles et donné de grands enseignements. Il avait aussi rencontré des oppositions. Cet entretien avec les apôtres devait être une vérification de la maturité de leur foi avant la passion et la résurrection. Jésus veut que ses disciples se rendent compte de ce qui est né dans leurs esprits et dans leur cœur et qu'ils expriment leurs convictions. Mais en même temps, il sait que le jugement qu'ils porteront ne sera pas seulement leur jugement, parce qu'il permettra de révéler ce que Dieu aura mis dans leur cœur par la grâce de la foi. Le laboratoire de la foi exprime donc le mystère de la naissance et de la maturation de la foi dans le cœur d'un homme. D'abord, la grâce de la révélation, Dieu qui donne à l'homme une lumière et qui se donne à l'homme d'une façon intime, inexprimable. Ensuite, la demande d'une réponse à donner, donc là, c'est le passage à un niveau conscient. Et enfin, la réponse de l'homme, réponse qui devra désormais donner sens et forme à toute sa vie. Voilà, nous sommes déjà entrés dans le laboratoire de la foi et nous avons déjà pu voir une expérience, celle de Saint-Pierre et des autres apôtres avec lui. Maintenant, passons à une étape historique après la résurrection, celle de la rencontre avec l'apôtre saint Thomas. Donc je lis à nouveau l'Évangile, cette fois-ci chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, versets 24 à 29. L'un des douze, Thomas, n'était pas avec les autres quand Jésus était venu le soir de Pâques. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Donc reprenons cette expérience. Thomas n'a pas voulu croire les autres apôtres. Il y a donc une difficulté pour lui de croire que celui qu'on avait mis au tombeau 3 jours auparavant était de nouveau vivant. Tous avaient besoin d'une rencontre directe avec lui pour croire à la résurrection. Le Cénacle de Jérusalem est alors comme un nouveau laboratoire de la foi. L'incrédulité de Thomas est plus radicale et en même temps, sa proclamation de la vérité sur le Christ sera plus profonde. Thomas fait l'expérience directe de la présence du Christ et exprime le noyau le plus intime de la foi. S'il en est ainsi, si tu es vraiment vivant tout en ayant été mis à mort, cela veut dire que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Le laboratoire de la foi s'est enrichi d'un nouvel élément, donc comme un quatrième élément, la relation où l'homme reconnaît existentiellement que le Christ est Seigneur et Dieu. Non seulement Seigneur et Dieu du monde et de l'humanité, mais Seigneur et Dieu de mon existence humaine concrète. Alors aujourd'hui, les questions de fond. Dans la rencontre de Saint Jean-Paul II avec les jeunes, dans une sorte de laboratoire de la foi, une fois encore, pour ceux qui croient au Christ au seuil du troisième millénaire, chacun pouvait mesurer en lui-même ses propres difficultés à croire, du passé ou du présent, et aussi éprouver la tentation de l'incrédulité. Le Christ avait dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Tout homme a en lui quelque chose de l'apôtre saint Thomas. Il est tenté par l'incrédulité et pose des questions de fond. Est-il vrai que Dieu existe? Est-il vrai que le monde a été créé par lui? Est-il vrai que le Fils de Dieu s'est fait homme, est mort et est ressuscité pour notre salut? Notre expérience personnelle. En même temps, chacun peut faire l'expérience d'une maturation progressive dans la conscience de son adhésion à la foi. Donc avec le laboratoire de la foi, nous distinguons ces étapes. Et c'est comme un admirable laboratoire de l'esprit humain, où Dieu et l'homme se rencontrent l'un l'autre. Sans cesse, le Christ ressuscité entre dans le cénacle de notre vie et permet à chacun de faire l'expérience de sa présence et de proclamer « Ô Christ, tu es mon Seigneur et mon Dieu ». La réponse aux questions de fond s'impose avec l'expérience que l'homme fait de la présence du Fils de Dieu. Il faut ouvrir ses yeux et son cœur à la lumière de l'Esprit Saint. Alors, les blessures ouvertes du Christ ressuscité parleront à chacun. Troisièmement, la fidélité est possible. Du mot « foi », nous pouvons en tirer le mot « fidélité », qui est la foi exercée dans la persévérance, dans le temps. Jean-Paul II, s'adressant aux jeunes, leur disait qu'ils auraient tous à manifester leur fidélité au Christ. À tel ou tel moment de notre vie, cela nous est demandé. Pas forcément en versant notre sang, mais garder la fidélité au Christ d'une manière continue et sous forme d'une épreuve, oui, certainement. Car croire en Jésus exige de prendre position pour lui aujourd'hui encore. Ce n'était pas par hasard que Saint Jean-Paul II avait voulu, pendant l'année sainte du Jubilé, l'an 2000, centré sur le Christ, le 2000e anniversaire de sa naissance, qu'on fasse mémoire près du Colisée des témoins de la foi du XXe siècle. Au cours des 2000 ans d'histoire pour l'Église, il n'a pas été rare que prendre position pour Jésus ait été comme un martyr. Le martyr de celui qui est appelé à aller à contre-courant pour suivre le divin maître. Et ce martyr continue, de manière sanglante ou de manière non sanglante. une fidélité à vivre dans les dans des situations de chaque jour. Par exemple, disait Jean-Paul II, fidélité des fiancés avec la difficulté de vivre dans la pureté au sein du monde actuel en attendant de se marier. Fidélité des jeunes couples dans les épreuves auxquelles est exposé leur engagement de fidélité réciproque. Fidélité entre amis avec la tentation de manquer de loyauté qui peut se glisser entre eux. Le pape Saint Jean-Paul II pensait aussi à ceux qui se consacrent à Dieu et aux efforts pour persévérer dans le don d'eux-mêmes à Dieu et à leurs frères. Mère Marie Augusta, qui a fondé la famille missionnaire de Notre-Dame, dont je fais partie, disait que la chasteté gardée pour Jésus deviendrait l'équivalente du martyre. Fidélité encore pour ceux qui veulent changer la logique des rapports dans le monde, trop basée sur le profit et l'intérêt, et pas assez sur la solidarité et l'amour. Fidélité à l'amour de la paix, lorsque ceux qui y travaillent voient naître et se développer de nouveaux conflits. Fidélité à l'amour de la liberté, pour ne pas se décourager de voir l'homme encore si esclave de lui-même et des autres. Fidélité pour ceux qui continuent à aimer et à faire respecter la vie humaine, alors qu'ils assistent à de nombreuses atteintes portées contre elles, et qu'on leur fait vivre un chemin de croix. Chers jeunes, s'exclamait Jean-Paul II, dans un tel monde, est-il difficile de croire? Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Comme Jésus l'expliqua à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Donc, Saint Jean-Paul II a voulu remettre à chaque jeune l'Évangile, la parole qu'il contient est la parole de Jésus. Si vous l'écoutez en silence, dans la prière, donc sous-entendu dans la foi, dans ce laboratoire de la foi qui est dans notre cœur, vous rencontrerez le Christ et vous le suivrez, engageant jour après jour votre vie pour lui. Car c'est un idéal très beau, le bonheur, l'espérance chrétienne avec Jésus. Et Jean-Paul II s'exclamait avec enthousiasme et une grande vérité, une grande conviction, « En réalité, c'est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez de bonheur. C'est lui qui vous attend quand rien de ce que vous trouvez ne vous satisfait. C'est lui, la beauté, qui vous attire tellement, on peut dire de l'intérieur, dans votre cœur. C'est lui qui vous provoque par la soif de radicalité qui vous empêche de vous habituer au compromis. C'est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui faussent la vie. C'est lui qui lit dans vos cœurs les décisions les plus profondes que d'autres voudraient étouffer. C'est Jésus qui suscite en vous le désir de faire de votre vie quelque chose de grand, la volonté de suivre un idéal, le refus de vous laisser envahir par la médiocrité, le courage de vous engager avec humilité et persévérance pour vous rendre meilleur, pour améliorer la société en la rendant plus humaine et plus fraternelle. Et Jean-Paul II ajoutait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Avec vous, il y a vos familles, vos communautés, vos prêtres et vos éducateurs. Il y a aussi tous ceux qui ne se lassent pas d'aimer le Christ et de croire en lui. Et en développant un peu plus cette idée que les jeunes ne sont pas seuls, il les avertissait qu'il y a des tentations contre la foi, pour lesquelles il faut s'ouvrir, chercher, demander à l'Église. Et si nous ne sommes pas seuls, justement, bien, prenons les mains que d'autres nous tendent dans l'Église pour nous aider. Il y a aussi, bien sûr, Jean-Paul II ne peut pas l'oublier, l'aide de la Vierge Marie, des apôtres qui nous ont laissé leurs exemples et aussi les écrits du Nouveau Testament, des saints qui ont marché avant nous sur ce chemin. Vous avez une chance très grande, disait encore Jean-Paul II, par rapport à d'autres jeunes embrigadés dans des idéaux trompeurs. Au cours du XXe siècle, des jeunes comme vous étaient appelés dans d'immenses rassemblements pour apprendre la haine, et ils étaient envoyés pour se battre les uns contre les autres. Les différents messianismes séculiers, nous pouvons développer la pensée de Jean-Paul II en disant qu'il s'agit par exemple de la franc-maçonnerie ou du communisme ou du nazisme, qui ont tenté de se substituer à l'espérance chrétienne, se sont révélés de véritables enfers. Avant d'en venir à la conclusion, je voudrais donner un exemple que Jean-Paul II ne donnait pas à ce moment-là, mais qui, de fait, a été si proche de lui, c'est celui de Mère Teresa. Mère Teresa a été une très grande figure du XXe siècle. Elle est donc maintenant sainte, Sainte Mère Teresa. Et on s'est rendu compte, surtout après sa mort, donc sa mort a eu lieu en 1997, qu'elle avait vécu une grande épreuve de la foi. Dans le cadre des conférences de carême à Notre-Dame de Paris, le cardinal Poupart, en 2003, a abordé la vie et la spiritualité de Mère Teresa, et il a mis en lumière donc cet aspect de l'héroïsme de sa foi. La vie de Mère Teresa, un long fleuve tranquille, point d'interrogation, demandait le cardinal Poupart. Une vie de joie intérieure couronnée de succès fulgurants, pourrions-nous croire? Il n'en est rien. Donc, après la mort de Mère Teresa, on a découvert ses cahiers personnels et puis le témoignage de certaines personnes qu'il avait connues de près. « Mon sourire, écrivait-elle en juillet 1958, mon sourire est un grand manteau qui couvre une multitude de douleurs. Tout le temps à sourire, les sœurs et les gens pensent que ma foi, mon espérance, mon amour me comblent en profondeur et que l'intimité avec Dieu et l'union avec sa volonté imprègnent mon cœur. Si seulement ils pouvaient savoir. » Donc quand ces cahiers personnels, ces notes ont été publiées, certains journalistes qui avaient mal compris ont dit que Mère Teresa avait perdu la foi. Non, elle n'avait pas perdu la foi, mais elle a vécu la nuit de la foi. Et cela peut beaucoup nous encourager lorsque nous ne vivons pas une telle nuit, une telle épreuve à un si haut degré, mais tous nous avons à passer par une certaine épreuve de la foi. Aujourd'hui, donc, nous savons par la documentation réunie pour le procès de béatification de Mère Teresa ce que recouvrait cette confidence dramatique. Sa correspondance inédite alors nous livra son secret, caché même à ses plus intimes collaboratrices qui n'ont jamais rien soupçonné. Il y eut 18 mois de dialogue ininterrompu avec Jésus, une voix intérieure qui l'inspirait, bien plus qui lui commandait de créer un ordre nouveau pour aller avec lui et pour lui vers les plus pauvres. Donc ceci eut lieu vers 1946-1947. Et ensuite, un demi-siècle de nuit de la foi, nuit obscure, avec seulement un mois de lumière en octobre 1958, où dans l'oppression de son abandon spirituel, elle obtint un signe de la présence cachée de Dieu. Tout le reste du temps, et ce temps c'est un demi-siècle, elle vit la foi dans l'épreuve. Et en cela, donc, elle nous ressemble de très près, et c'est pour nous un grand encouragement. Voici ce qu'elle écrivait. « J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment. C'est en moi de terribles ténèbres, comme si tout était mort, en moi, car tout est glacial. C'est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce qu'en vérité, tout est obscurité pour moi. Parfois, l'agonie de la désolation est si grande, et en même temps, le vif espoir de l'absent, donc l'absent ici c'est Dieu, donc ce vif espoir est si profond, que l'unique prière que je réussisse encore à réciter, c'est « Cœur sacré de Jésus, je me confie en toi, je comblerai ta soif des âmes. Aujourd'hui, j'ai ressenti une joie profonde, parce que Jésus ne peut plus vivre directement l'agonie, il désire la vivre à travers moi. Je m'abandonne plus que jamais à lui. » Prier dans la foi, expliquait alors le cardinal Poupart, ne consiste pas à sentir des choses extraordinaires, mais c'est l'expérience d'une conviction stable, appelée foi profonde, avec parfois l'épreuve de la foi aveugle. Mais nous ne sommes pas tous appelés à la vivre au degré que Jésus a demandé à Mère Teresa. Voilà, donc il est bon de mentionner cette épreuve, bon, très forte dans la vie de Mère Teresa, mais cela nous éclaire dans notre quotidien. Nous ne vivons pas d'extase quotidienne, de la voix de Jésus qui nous parlerait tous les jours. Cela, ce sont des grâces extraordinaires, assez rares pour l'ensemble du nombre des catholiques dans le monde et sur toute l'histoire de l'Église. Cela arrive, mais ce n'est pas habituel. Ce qui est habituel, c'est l'épreuve de la foi. Et pour certains, comme pour Mère Teresa, cette épreuve peut être plus dure même encore. Mais de grandes grâces sont obtenues pour l'âme qui vit cela et à travers elle pour d'autres âmes qui peinent à se tourner vers Dieu. Et Dieu utilise les grâces alors qu'il obtient, on pourrait dire, par les mérites de ceux qui acceptent de vivre cette épreuve. Et Dieu alors donne des grâces de foi à des personnes qui ne l'ont pas encore. Venons-en à la conclusion à propos de ce laboratoire de la foi. Dans notre condition actuelle, la foi est le moyen de rejoindre Jésus dans une expérience intérieure insensible, la plupart du temps, car le Seigneur est esprit, comme le dit saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Jean-Paul II, en utilisant l'expression « laboratoire de la foi » lorsqu'il parlait aux jeunes en l'an 2000, se faisait alors auprès d'eux témoin de l'espérance. À l'aube du troisième millénaire, Jean-Paul II les a vus comme les sentinelles du matin, selon l'expression du livre d'Isaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. « Aujourd'hui, leur disait-il, vous êtes venus pour affirmer que dans le nouveau siècle, vous n'accepterez pas d'être des instruments de violence et de destruction, que vous défendrez la paix en payant de votre personne si nécessaire. Vous ne vous résignerez pas à un monde où d'autres hommes meurent de faim, restent analphabètes ou manquent de travail. Vous défendrez la vie à tous les instants de son développement ici-bas. Vous vous efforcerez de rendre cette terre toujours plus habitable pour tous. » Voilà à quoi nous conduit la conviction ferme et profonde de la foi. Et par rapport à ceux qui pouvaient avoir peur de s'engager, il leur disait « Chers jeunes du siècle qui commence, en disant oui au Christ, vous dites oui à chacun de vos plus nobles idéaux. N'ayez pas peur de vous en remettre à lui. Il vous guidera, il vous donnera la force de suivre chaque jour et en toute situation. De le suivre chaque jour, pardon, et en toute situation. » Et je voudrais ajouter une prière que nous pouvons adresser à saint Jean-Paul II, qui n'a pas un rapport direct avec ce que nous venons de dire, mais qui, au long de ces 9 émissions que nous aurons sur saint Jean-Paul II cette année, nous aideront à profiter de différentes lumières et de différents exemples magnifiques qu'il a donnés. Saint Jean-Paul II, vous avez vécu pleinement le pardon à la manière de Jésus lorsque vous avez visité votre agresseur pour lui accorder votre pardon après l'attentat qui a failli vous coûter la vie le 13 mai 1981. Votre cœur était débordant de cet amour de Dieu qui relève, qui guérit et qui livre. En libérant votre assaillant de son mal, en lui proposant d'être libéré de ce poids, vous avez, nous l'espérons, ouvert en lui une porte vers Dieu. Vous avez voulu nous démontrer concrètement que notre Dieu n'est pas un Dieu sévère et impitoyable, mais un Dieu qui souhaite accueillir chacun de ses enfants et de lui donner les forces dont il a besoin pour aller jusqu'au bout de ses désirs et de ses appels. Le pardon guérit le cœur humain et le remet en marche. Saint Jean-Paul II, qui vous êtes fait le défenseur de la vie, des petits et des pauvres à la suite de Jésus, venez présenter au Père de toute miséricorde les intentions, les demandes que nous portons dans notre cœur. Venez nous aider à bénir Dieu sans cesse, à le remercier de ses bienfaits, à le laisser habiter dans nos cœurs par son amour fidèle et éternel, et qu'il nous aide à suivre Jésus jusqu'à l'extrémité de l'amour. Amen.
Amen. Frère Michel, c'était heureux de vous avoir avec nous à nouveau sur les ondes de Radio Maria France pour cheminer en compagnie de saint Jean-Paul II après le laboratoire de la foi. Pourriez-vous nous dire ce qui nous attend le mois prochain pour la prochaine émission.
Oui, alors je le retrouve. Il me semble que c'est justement encore un développement par rapport aux jeunes. Non, pour les jeunes, ce sera en décembre. Donc, c'est « Mane nomiscum domine ». C'était un texte qu'il avait donné pour l'année de l'Eucharistie, et cela veut dire « Reste avec nous, Seigneur », dans lequel donc il donnait certaines lumières sur la messe et le culte de Jésus-Eucharistie, sa présence au milieu de nous, et donc toutes les grâces que l'on peut recevoir auprès de lui.
Un grand merci, frère Michel. Dès cette émission, nous nous retrouverons.
Au mois de novembre.
Au mois de novembre, en effet. Merci beaucoup.
Au revoir.
Chers auditeurs, c'était notre émission consacrée à Saint Jean-Paul II. Vous étiez avec le frère Michel. Le thème de l'émission était le laboratoire de la foi chez Saint Jean-Paul II. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.